Alors, cette communication sera en deux parties. Le premier volet portera sur Jonathan Levinas dans le contexte de Dostoïevski, tandis que le deuxième portera plus exclusivement sur Genet et Tolstoï. Bakhtin identifie deux principales catégories de dialogisme dans son œuvre. L'échange des énoncés entre les individus séparés et les échanges de mots à travers l'histoire de la littérature. C'est-à-dire qu'on se sert de mots qui nous ont précédés dans l'expression de tous les jours et qui portent une accumulation de sens qui peuvent être accueillis par l'autre, tout comme dans le cas des lettres, les voix mortes du passé appellent l'un à l'autre à travers l'histoire de la littérature. Dans les études génétiennes, le positionnement du lecteur par rapport à son style délié, les fragments du langage dont il se sert, qui imposent des incertitudes, des accumulations et des mises en suspens du sens, est central. L'axe transhistorique du discours est la spécialisation même de la littérature qui adresse, selon Bakhtin, des mots sur des mots à des mots. C'est-à-dire qu'on se sert de la langue d'autrui et on se sert des mots déjà adressés à d'autres. Comme nous le savons, Genet déborde d'emprunts qui intriguent et de réflexions prélevées chez d'autres écrivains. Même si elle a voulu l'impression d'être arrivée au monde poétiquement armée de toutes ses dents. La représentation du discours chez Genet doit prendre en compte la multiplication des voix qui circulent en dessous de son apparent solipsisme. Le doublement des voix dans la poétique de Dostoïevski de Bakhtin nous fournit le terme « polémique cachée » pour décrire un dédoublement de voix, d'où l'intention de l'auteur doit s'interpréter par le biais d'un discours externe qui agit, influence et d'une façon ou d'une autre détermine le discours de l'auteur. À la différence de la parodie ou du pastiche où la divergence ou convergence est avouée. Dans cette communication, nous allons regarder deux exemples principaux de polémique cachée. L'exemple de Smerdiakov, d'où elle tire son titre, et un autre venant de Guerre et Paix. Les textes de Levinas, qui sont d'une très grande densité, abondent de références philosophiques et littéraires. Parfois, l'absence de guillemets dans les citations augmente la hantise de la littérature dans la philosophie. L'argumentation chez Levinas adopte parfois un double contexte d'énonciation par l'intermédiaire de ses références. Russophone de Kaunas en Lituanie, où il n'y avait pas la philo n'était pas apprise par tous les étudiants. Dostoïevski et Tolstoï ont compté comme ses premiers cours de métaphysique. Tandis qu'il ne procède pas par polémique cachée qui susciterait des controverses vives, les exemples cités pour soutenir ces arguments sont parfois polyvalents et se nourrissent des profondeurs des œuvres citées. Les lecteurs de Levinas connaîtront déjà les références et citations directes tirées de Dostoïevski. L'insatiable compassion de Sonia Marmeladova pour Raskolnikov dans Crime et Châtiment, qui témoigne d'un désir infini pour autrui. Et la responsabilité asymétrique décrite par le frère du Starets Zosine dans Les Frères Karamazov, selon qui, je cite, « chacun de nous est coupable devant tous et pour tout, et moi plus que les autres ». Cette citation figure chez Genet sous une forme très similaire pour décrire sa relation aux passagers dans le train, dans ce qui est resté d'un Rembrandt. Pour qui il ressent un lien qu'il n'est pas sûr qu'un autre homme puisse ressentir. Il se rend compte que, tout homme et tout autre homme, et moi comme tous les autres. Lévinas emploie la citation de Zosine de nombreuses fois à travers son œuvre, au moins dans son intégralité, au moins 4 fois. Nous trouvons la même idée alors à travers les 3 auteurs. Dostoïevski agence l'appel de la compassion infinie en couple et groupement de personnages qui permettent d'apprécier l'énorme distance que traverse le désir éthique dans cette relation asymétrique entre protagonistes. Nous voyons les couples Sonia et Raskolnikov, Mishkin et Anastasia dans L'Idiot, comme le couplage de saints et de pécheurs. Mais il y a également moyen de relier Zosine et Smerdiakov par un éventail d'autres personnages, puisque nous sommes habitués à entendre Lévinas citer les gentils, dans ce cas Sonia et Zosine. Il serait intéressant de savoir s'il se sert de Smerdiakov, le traître. Il se trouve que oui, mais il faut suivre une suite de thèmes et de personnages assez complexes afin de les relier. Dans la biographie de la vie de Zosine, nous apprenons sa sympathie particulière pour les serviteurs, les criminels, peut-être moins coupables que leurs juges, et les suicidés, qui annoncent tous Smerdiakov. Dans Crime et châtiment, Raskolnikov exprime déjà la théorie selon laquelle l'homme exceptionnel peut, si nécessaire, traverser un fleuve de sang pour accomplir ses projets. Il développe l'idée dans un article publié que pour aider le plus grand nombre, la moralité commune ne s'appliquerait plus. Cependant, ce qui le pousse véritablement à l'acte du crime, ce n'est pas cet utilitarisme, mais un simple désir de faire l'expérience du crime. Chez Lévinas, l'autre offre une résistance quasi nulle à la violence, tandis qu'autrui, la troisième personne, ou l'île, de l'illéité qui nous relie tous est invulnérable, étant la relation même à l'autre et non un autre physique. Dans ce sens, on peut voir que Raskolnikov ne cherchait alors pas à tuer l'usurière, mais l'appel de l'autre en lui. Dans Les Frères Karamazov, Ivan a élaboré un discours parallèle à celui de Raskolnikov, qui interprète l'âme immortelle comme un fondement de l'éthique. S'il n'y a pas d'âme immortelle, l'humain n'est ni relié à l'autre, ni tenu au bon comportement. Je cite, « La scélératesse doit non seulement être autorisée, mais reconnue pour l'issue la plus nécessaire et la plus raisonnable de tout athée. » Un tel athée pour Ivan serait le grand inquisiteur de son poème. Alors, tandis que chez Raskolnikov, certains peuvent transgresser la morale, chez Ivan, il devient une loi généralisée. Il faut traverser la morale. Lévinas trouve un fondement de l'éthique qui n'est pas dans la croyance, mais dans l'autre. Le « il » de l'illéité tient lieu de Dieu ou de l'infini et sert de manière à mettre le sujet en question, ce qui évite à la fois l'anarchie et d'imposer de prescriptions exhaustives qui pourraient ériger une nouvelle totalité. Comme conséquence de l'argument d'Ivan, selon lequel tout serait permis, l'enfant illégitime, Smerdiakov, se croit par là autorisé au meurtre de leur père. Le désir d'Ivan pour la mort de son père, ainsi que sa participation dans le meurtre, ne sont pas conscients, parce que, comme nous l'explique Bakhtin, sa conscience évite délibérément de regarder dans cette direction. Jusqu'à la troisième entrevue au chevet de Smerdiakov, ce dernier croit qu'ils sont complices et croit même que leur projet était ordonné par Dieu. Ivan pressent la mauvaise tournure prise par les événements et commence à déborder de soupçons préconscients, peut-être pas encore de la culpabilité, mais soupçons préconscients, contre lui-même. Il exprime finalement sa crainte que Smerdiakov soit un fantôme. Smerdiakov alors, « Il n'y a pas de fantôme ici, sauf nous deux. Et encore un troisième, sans doute il est là maintenant. Quel troisième ? Proféra Ivan avec effroi en regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. Smerdiakov. C'est Dieu, la Providence, qui est ici, près de nous. Mais inutile de le rechercher, vous ne le trouverez point. Smerdiakov croyait que lui et Ivan bénéficiaient du pouvoir protecteur de Dieu. Ici, Dieu coïncide trop exactement avec ses propres souhaits et chimères de pouvoir rendre service. Mais sa réponse à Ivan est sincère parce qu'il croit que ce dernier avait l'intention de demeurer non seulement extérieurement, mais intérieurement non impliqué dans le meurtre. Une citation de Levinas dans « Dieu et la philosophie » pourrait éclaircir la confusion de Smerdiakov concernant les appels auxquels il a obéi en commettant le meurtre. Le Dieu qui fait le renvoi à autrui dans l'illéité est autre qu'autrui, autre autrement, autre d'altérité préalable à l'altérité d'autrui, à l'astreinte éthique au prochain et différent de tout prochain, transcendant jusqu'à l'absence, jusqu'à sa confusion possible avec le remue-ménage de l'Ilia. Et l'Ilia dans Levinas, c'est le neutre. Ceci voudrait dire qu'on puisse prendre la volonté de Dieu pour l'Ilia ou l'angoisse du neutre, comme le fait le grand inquisiteur, ou bien prendre la socialité qui peut pousser au meurtre pour Dieu lui-même, comme le fait Smerdiakov. Cette citation recouvre plusieurs mouvements dans le livre. À partir de cette situation de laquais d'enfant illégitime et de sa proximité d'Ivan, Smerdiakov s'est créé un dieu trop objectif, trop présent dans l'être, qui l'a mené au meurtre et en définitive a coupé tout lien social avec l'extérieur. Il a pris Dieu pour ce qui est en vérité le mouvement de l'Ilia, ou l'être sans étant. Smerdiakov, au lieu d'avoir un complice en Ivan, est alors livré à lui-même et totalement esselé, perdra espoir. Ainsi, l'enfant illégitime devient criminel et suicidé. La citation de Levinas s'applique également à Ivan. Pour lui, cependant, la révélation de son lien au crime appelle à son esprit les personnes qu'il avait oubliées, notamment Dimitri, accusé du meurtre, et un ivrogne endormi dans la neige qu'il a agressé en entrant chez Smerdiakov. Il se promet de porter témoignage le lendemain au procès de Dimitri, mais perd du temps à prendre soin de l'ivrogne. D'un côté, l'ivrogne est un non-désirable qui devient désirable, c'est des termes levinasiens, mais comme le dit Levinas, Dieu est autre que qu'altérité préalable et que l'astreinte au prochain. Et ces dernières considérations finissent par empêcher Ivan d'identifier la priorité de son procès verbal. Dans la nuit, il perdra la raison en conséquence d'une dernière entrevue avec le diable qui le persuade de ne pas prêter serment. Au lieu de frères associés, la portion de l'esprit d'Ivan qui se sent coupable du meurtre crée une scission dans sa personnalité et finit en dialogue interne avec lui-même, extériorisé sous la forme du diable. L'éventail des personnages qui relient Zosine à Smerdiakov vont alors d'Ivan dans ses relations avec Dimitri à Alyosha jusqu'au grand inquisiteur et au Christ sans poème. Il serait intéressant pour notre propos d'examiner l'entrevue avec le diable parce que celle-ci permet de relier les deux auteurs russes de notre communication. D'abord, le diable arrive à convaincre Ivan de sa réalité. Je dis des choses originales qui ne te sont jamais venues à l'esprit. Même dans le rêve, le cauchemar ou l'hallucination, il arrive à l'esprit des choses originales, dérivées de l'extérieur. Ce genre de phénomène peut relever de la fascination comme de l'altérité. Par son réalisme dans un plus haut sens. Dostoïevski montre que le réalisme est, lui, aussi vulnérable à l'illusion. Pour ainsi faire, son diable fait référence à Tolstoï, auteur d'épopées réalistes. Le diable soutient que, dans les rêves, l'homme a parfois des visions si belles, des scènes de la vie réelle si compliquées, que, je te le jure, Léon Tolstoï lui-même ne parviendrait pas à les imaginer. Dostoïevski s'était déjà permis une raillerie de cette sorte contre Tolstoï dans « L'idiot », publié juste après la sérialisation de « Guerre et paix ». Le général Ivolgin, dans sa mythomanie, raconte au prince Michkine qu'il a été ordonné page de Napoléon pendant la campagne de Moscou. Sous la plume d'un romancier, l'aventure serait tombée dans la baliverne et l'invraisemblance. On constate que le style de Genet ressemble plus à celui de Dostoïevski qu'à celui de Tolstoï. Chez Genet, nous allons voir une réorientation de la vision épique de l'histoire chez Tolstoï comme vue par une subjectivité malade qui rassemble les penseurs infirmes chez Dostoïevski, dont Kirillov, Mishkin, Ivan, Anastasia et d'autres. On va passer à Genet maintenant. J'espère que vous connaissez bien les frères Karamazov, autrement vous aurez souffert là. Ok, Genet. Certains critiques récents ont cherché à regarder les sources pour le récit de l'occupation pompe funèbre et ont fait ainsi en privilégiant des sources historiques au dépit des sources littéraires. Je pense à Stuart, le traitement de Stuart de la rébellion de la santé dans Pompe funèbre, ainsi qu'à Marty et son traitement de l'amitié entre Genet et De Quernin, comme quoi s'il n'aimait pas réellement De Quernin, il a simplement trahi sa mémoire en n'acceptant pas de giser en prison pour la perpétuité. La prétention de certains critiques d'illuminer des textes énigmatiques par la lumière froide du contexte historique n'est pas un travail probant, surtout lorsqu'il reste des sources littéraires et assez historiques, clés à examiner. Les critiques ont fréquemment couru le risque d'attribuer directement à Genet les positions qu'il cherche à exposer, soumettre à réflexion ou rendre ambiguës par les procédés de sa stylisation. Il se dit sûrement qu'il y a d'autres risques qui sont plus beaux à courir. Les examens du nazisme que nous trouvons surtout dans Pompe funèbre et Un captif amoureux sont si troublants qu'on peut comprendre qu'un critique puisse perdre courage et faire une croix sur une œuvre qui serait irrécupérable, le produit de la simple turpitude morale. L'intérêt de Genet pour la délation peut cependant être entendu en grande partie comme un exercice de style, montrer le manque de rigueur du lecteur, plaçant des responsabilités insoupçonnées sur son chemin. Ma deuxième partie. Le roman russe nous permet d'examiner de telles instances de trahison et de déterritorialiser différentes notions de conflit. Nous considérerons l'occupation allemande de la France et les occupations françaises de la Russie et de Jaffa lors de la campagne d'Égypte en 1799. La figure de Napoléon est importante en tant que métonymie à la fois historique et psychologique. Stendhal, dans sa vie de Napoléon et mémoires sur Napoléon, qui n'ont pas été publiés de son vivant, avait étudié les effets du système napoléonien à la fois sur l'âme nationale ainsi que sur celle des peuples envahis. Chez le premier groupe, au moins, il remarque l'extrême émulation que l'empereur avait inspirée à tous les rangs de la société. Pourtant, cette émulation a atteint jusqu'à Raskolnikov et même le général Ivolgin qui déclare que Le cœur russe est capable de distinguer un grand homme, même dans l'ennemi, de sa patrie. Dans Crime et Châtiment, Raskolnikov arrive à l'hypothèse citée ci-dessus, mais sera plus tard paralysé par la culpabilité. Il confie à Sonia que la raison pour laquelle son complot était devenu une obsession était parce qu'il s'interrogeait sur ses droits vis-à-vis d'autrui. Le fait seul de me demander « Napoléon, aurait-il tué la vieille ?» suffirait à prouver que je n'étais pas un Napoléon. J'ai voulu tuer Sonia, sans casuistique, tuer pour moi-même, pour moi seul. Quoique certains des personnages de jeunesse soient persécutés par leur conscience, par exemple Ange Soleil et Yeux Verts, le narrateur de Genet exerce une sorte d'infaillibilité, d'où le caractère destructeur du crime est pris pour issue gratifiante dans une logique de qui perd gagne. Bataille appelle cette perte de souveraineté délibérée. Chez Genet, la souveraineté dérisoire. Puisque Genet est impuissant à prendre le monde à l'assaut, comme Napoléon, peut-être par vengeance pour sa position de paria, kleptomane, abandonné, homosexuel, etc., il va procéder de manière voilée, affirmant sa haine pour la France à cause de ses humiliations en tant qu'enfant de l'assistance à Morvan. Il corrole discrètement des références à les frères Karamazov avec sa propre vie. Cette fois, Genet se rattache à une source qu'il mentionne directement ailleurs. Nous pensons à l'article « Les frères Karamazov » datant de 81. Il remarque que les frères sont quatre, incluant Smerdiakov. La tendance à la défection chez Smerdiakov trouve alors des échos chez Genet. Et dans l'entretien avec Hubert Fichte, nous lisons « Le fait que l'armée française, ce qu'il y avait de plus prestigieux au monde il y a 30 ans et capitulait devant les troupes d'un caporal autrichien, eh bien ça m'a ravi. » Et encore une fois, 10 ans plus tard, dans une remarque à Nigel Williams pour la BBC, elle était battue par les Allemands, elle a été battue par Hitler, j'étais content. Dans un troublant croisement entre la fiction et les déclarations qu'on supposerait dignes de foi, nous remarquons que Genet a adapté ses répliques de Smerdiakov. Si nous revenons à la scène de Serenade, Smerdiakov explique « En 1812, la Russie a vu la grande invasion de l'empereur des Français, Napoléon Ier. C'est grand dommage que ces Français ne nous aient pas conquis. Une nation intelligente eût subjugué un peuple stupide. Tout aurait marché autrement. » Il y a Dominique Aidé qui a également trouvé ce parallèle. 1000 objections peuvent être soulevées contre cette mise en relation de Napoléon et Hitler, comme l'Académie a fait au livre de Claude Ribes, Le crime de Napoléon. Mais cela dit, je n'écris pas de texte universitaire et on va l'aborder autrement. Ce qui nous importe de tirer de la discussion à cette étape est que les positionnements de Genet ne sont pas de simples assertions, mais des procédés discursifs. Il montre dans tous les cas la souveraineté dérisoire indiquée par Bataille où la domination de soi-même ou de sa nation est accueillie. Et la France comme matériau de travail, encore une fois, comme Albert vient de le dire. Dès la fin des années 1960, l'intérêt de Genet était porté de plus en plus à la politique et des questions d'actualité. Ce plus grand intérêt pour les événements réels n'a pas pourtant mené à une accalmie poétique, comme le montrent les éléments oniriques et visions cauchemardesques de la Shoah dans son dernier ouvrage « Un captif amoureux ». Dans ce dernier ouvrage, Genet incorpore une version retravaillée de son article « 4 heures à Chatila » sur les suites immédiates du massacre de Sabre et Chatila commis entre le 16 et 18 septembre 1982. Palestiniens et Syriens étaient tués par les phalangistes de Pierre Gemayel sous garde israélienne comme vengeance pour l'assassinat deux jours auparavant de Bachir Gamayel, président désigné du Liban. Sharon était obligé de donner sa démission suite à la commission Karen, qui reconnaissait la responsabilité partielle d'Israël et à Sharon la responsabilité personnelle pour l'effusion de sang. Ce massacre a souvent servi de prétexte à des remarques antisémites ou au révisionnisme. Je n'en ai pas au-dessus des pulsions antisémites et s'est avéré capable de faire des affirmations haineuses, même si elles ont été pour la plupart retranchées. Biffé de la main de l'auteur ou sont restés impubliés. Les retranchements de 4 heures à Chatila en sont un exemple. Adrien Laroche formule ainsi la sorte de raisonnement raccourci et spécieux qui peut en suivre. Je rajoute un petit peu, mais que si les anciennes victimes de l'Holocauste sont maintenant impliquées dans la victimisation de l'autre, et si je ne me sens pas particulièrement redevable aux nouvelles victimes, tellement pris dans l'ironie, les victimes des victimes, alors il est comme s'il n'y avait pas de victimes, purifiant la conscience. Qu'est-ce que signifie alors la joie de jeûner à la défaite de la France, sinon la gloire de Hitler et le massacre des Juifs? N'est-ce pas là le sens de la collusion inouïe qu'établit l'imaginaire de Genève entre Hitler et les Palestiniens en conflit avec Israël ou les Juifs, d'où l'ennemi de mon ennemi serait mon ami, la logique du grand mufti de Jérusalem. Genève semble être conscient du risque de cette interprétation et par ses intertextes cherche à nous impliquer à distance par un procédé autre. Nous prenons un exemple relativement maîtrisé d'un captif amoureux. Genet et le fédéin Abu Omar connaissent un chef palestinien borgne suite à un colis piégé israélien. Genet aurait souhaité savoir quel était l'œil aveugle de Moshe Dayan, politique et ancien chef d'état-major d'Israël. Omar, déconcerté, avoue que tandis qu'il regrette la blessure du Palestinien, il ne regrette pas celle de Dayan. Le choix de Dayan n'est pas toutefois, ni le innocent ni le fruit du hasard. Quoique non dit dans le texte, il se trouve que Dayan avait été aveuglé combattant aux côtés des Britanniques contre Vichy au Liban pendant la Deuxième Guerre. Ceci a appartient au moment où Genet critique l'idée d'une fraternité fondée sur la haine. Tandis que les multiples couches de référence de son style s'avèrent par moments déroutantes, elles se réfèrent à des événements réels et produisent des comparaisons inattendues et souvent illuminantes. Marty soupçonne Genet de détourner l'attention de la vraie victime dans un procédé d'écriture tacitement approuvé par le lecteur, qui, incapable d'attribuer du sens au moment délirant, les lit en diagonale et observe ainsi un tabou. Pour Marty, ce tabou est l'antisémitisme, que soutient tacitement le lecteur à travers un malentendu latent. On va maintenant tester le malentendu latent contre mes polémiques cachées. Un passage auquel Marty se réfère, mais ne réussit pas à interpréter de manière adéquate, se trouve à la fin de Souvenir 1. Genet y attribue la gloire au Cid et la grandeur d'âme à Hitler, l'un embrassant un lépreux et l'autre caressant le museau d'un berger allemand. Genet affirme que les seules choses à demeurer de ces personnages, hormis la délicatesse de la caresse, sont une tragédie qui a duré quelques siècles, éventuellement la pièce de Corneille, qui ressemble beaucoup à Antigone, d'ailleurs, et l'extermination des Juifs. Il se réfère à un temps où, je cite, seule demeure la caresse éternellement visible, c'est-à-dire presque sans soutien. La grandeur d'âme, la preuve grâce à laquelle cette grandeur d'âme sera toujours vivante. Mais il s'avère que cette grandeur d'âme est une adaptation de Guerre et Paix. Dans la première scène, qui a lieu en 1805, Pierre se réfère à l'exécution du duc d'Enghien comme étant une nécessité d'État. Et je vois précisément la grandeur d'âme de Napoléon dans le fait qu'il n'a pas craint de prendre entièrement la responsabilité de cet acte. Tolstoï emploie le terme russe, velice duce, en français aussi, comme c'est des personnages aristocrates, ils parlaient en français. Alors, il y a non seulement Smerdiakov qui se sent écartelé quant à sa nation, il faut aussi y compter Pierre, lui aussi est légitime comme Genet, et le prince André, qui, avant Austerlitz, tout en voulant emporter la victoire, ne pouvait admettre le déshonneur de son héros, Bonaparte. Ils empruntent eux aussi une manière smerdiakovienne avant d'avoir leur conception de la grandeur cruellement démentie. Si nous regardons la fin du roman de Tolstoï, il revient aux notions de grandeur d'âme en l'attaquant. Quand l'acte est contraire de façon évidente à tout ce que l'humanité considère comme bon ou même juste, les historiens font appel pour s'en tirer à la notion de grandeur. Mais tandis que Tolstoï l'applique à Napoléon, Genet l'applique à Hitler. Pour Tolstoï, en tant que défenseur de la victime russe, la grandeur d'âme de Napoléon est démythifiée. Mais ceci n'est pas forcément le cas pour l'historien français. Historien ou romancier, devrais-je dire. Stendhal s'est lui aussi servi de la formule, s'il n'est pas le créateur, et était entièrement conscient de l'ambivalence d'un despote capable d'éveiller des sentiments quasi-religieux. Oui, c'est dans Le Rouge et le Noir de la bouche de Julien Sorel. Et plus tard, dans ses biographies sur l'empereur, dans les fragments de la première, était publié en 1854, attend pour l'éventuel lecteur de nos auteurs russes. Par cette collusion avec Hitler, Genet crée une complicité que personne ne pourrait défendre, ce qui nous oblige à lire plus loin. Comme Genet nous explique, évidemment soumis aussi à notre pouce et voudrait venir au monde. Dans Guerre et Paix, André viendra à l'aide de Pierre, après sa gaffe. Il faut avouer, poursuivit le prince André, que Napoléon fut grand en tant qu'homme au pont d'Arcole, à l'hôpital de Jaffa, où il donnait la main, ou serrait la main, des pestiférés. Mais certains de ses actes seraient difficiles à justifier. Ce n'est que par la caresse du lépreux par le Cid, d'abord raconté dans un texte du XIVe siècle, les exploits du jeune Roderick, que ces lignes peuvent être comprises. L'épisode est comparé à Napoléon qui touchait ses soldats frappés non par la lèpre, mais par la peste, le 11 mars 1799, comme nous voyons dans le tableau de Gros, dans lequel nous le voyons toucher un bubon. Genet y assimile également la caresse du museau du berger allemand. Genet implique avec ironie qu'à la fois le Cid et Napoléon se servent du toucher royal qu'on croyait curatif. Cependant, selon Miot, deux jours auparavant, le 9 mars 1799, après le siège de Jaffa, les soldats turcs qui avaient capitulé étaient massacrés par balles, baïonnettes et épées au nombre de 2500. Quelques semaines plus tard, le 26 et 27 mai, l'impossibilité de transporter les pestiférés a mené Napoléon à donner la mort à un nombre de ses soldats par la distribution de l'opium. Le toucher aux vertus curatives est alors démenti. Henri Lawrence remarque que Napoléon a calqué le massacre de Jaffa sur celui perpétré en 1776 par Abu Dahab, le chef de guerre mamelouk. Volney nous raconte que ce massacre était indiscriminé, comme un acte de terreur, sinon de terrorisme. Genet y ressent un précurseur, Assabr et Chatila, qui était lui aussi commis comme châtiment. Alors Genet étend ensemble les corps des Juifs dont la tuerie était commandée par Hitler, des Palestiniens tués par les phalangistes et maintenant les Turcs tués par les Français. Tous ces actes étaient commis sans que, selon toute apparence, l'agresseur perde la face. Une dernière remarque avant ma conclusion. Il est probable que dans l'époque napoléonienne, un autre événement ait retenu l'attention de Genet. Les mouvements millénaristes protestants et messianiques juifs en Europe ont compris la présence d'une armée française en Palestine comme le début de la réalisation de la prophétie du rassemblement du peuple juif dans la Terre Sainte. La presse anglaise et française a annoncé qu'il était l'intention de Napoléon de constituer un État juif pendant la campagne de Syrie même, alors au moment même. Quoique très certainement infondé selon Lorenz, il est très probable que Genet y fait référence dans son réseau intertextuel. Alors, pour résumer, Genet associe l'invasion française de la Russie à l'invasion allemande de la France. Ensuite, par le biais de la grandeur d'âme et du Cid, il associe le siège français de Jaffa au massacre libanais de Sabra et Chatila. Si très indirectement Jaffa a produit les conditions nécessaires pour la création d'Israël, Israël n'a pas empêché le massacre de Chatila. Par les méthodes de Hitler et de Napoléon et les agissements de la grandeur d'âme, il est comme si la campagne d'Égypte avait causé et la Holocauste et la tuerie des Palestiniens. Nous avons alors vu Genet essayer de se rattraper, dépasser une lecture des Palestiniens comme la simple victime des victimes, pour identifier une responsabilité plus générale où prédomine l'agression européenne et surtout française à la place. En passant par une préhistoire, il semble vouloir substituer une position anti-sioniste à une position antisémite. Mais une position qui, il faut insister, condamne la tuerie en général. Quoique par des manœuvres très compliquées, plutôt que d'observer un tabou alors, Genet impute à son lecteur une responsabilité, comme chez Ivan, là où le lecteur se croyait non impliqué. Les mises en rapport de Genet préconisent non pas le reniement de toute responsabilité, mais une responsabilité obsessionnelle. Sa manière de témoigner se produit par le moyen du fantôme et de la trace de l'autre. Il semblerait que Genet nous fait faire l'expérience d'un neutre ou transcendance négative, ce que Jean Val a appelé la transcendance. Chez Levinas, comme nous l'explique Rudy Visker, la transcendance ou Lilia n'a pas de rôle à elle seule dans l'intrigue éthique. Ceci est parce que la responsabilité obsessionnelle par le seul Lilia mène le sujet au désespoir et empêche toute action, ce n'est pas l'idée. Cependant, comme nous avons vu par le biais du lien éthique dans le couplage de Zosine et Smerdiakov, le neutre et la transcendance peuvent être liés et le sont. Les démonstrations de Genet sont par leur nature fragmentaires et interrompues, invitant la réfutation ou la division aux voies multiples. nous citons un passage où Lévinas traite de la subjectivité malade, probablement du prince Mishkin. Il faut que sa prétention puisse s'exposer à la dérision et à la réfutation, jusqu'à laisser soupçonner dans le « me voici » qu'il atteste, un cri ou un lapsus d'une subjectivité malade. Le « me voici » de Genet n'est pas la confusion de Smerdiakov, qui se porte volontaire pour un sale boulot. Il n'est pas non plus possible de le réduire à un « te voici » d'accusation satanique. Genet ne nourrit pas le désir d'instaurer à la communauté sa prétendue idéologie ou ses délires sacrés. Pour reprendre le texte de Lévinas, le délire est à réduire par la philosophie, à ramener à la signification, à l'un pour l'autre, à une mission vers autrui, dans la gloire de l'infini. La subjectivité de Genet n'est pas d'emblée subjectivité responsable pour l'autre. Cependant, il discerne des avertissements et répétitions du potentiel génocidaire et rejette et combat ses causes. Nous reconnaissons certaines qualités de prophétisme à cette écriture. Cependant, la responsabilité obsessionnelle de Lévinas ne peut naître que de la subjectivité propre du sujet. Mettre tout au compte de sa nation serait, selon Lévinas, d'éviter la responsabilité personnelle, qui est de nature radicalement asymétrique. Je suis déjà autre par rapport à ma propre famille ou nation. Cependant, en conclusion, Genet ne tente pas d'établir un ordre, puisque le futur réel est décrit comme ayant plus de réalité que ses souvenirs défigurés et de son imaginaire défigurant. Un futur qui dit plus inventif que mes cauchemars et que mes souvenirs. Merci.
Je sais pas si ça marche. Non, je vais pas retarder la pause, mais. Je voulais tout simplement remercier Thomas Newman de cette intervention extrêmement riche. J'ai l'impression que là, on est vraiment entré dans les grandes profondeurs de l'animal dont on parle. Et voilà, c'est tout. Enfin, je suis très, très content de cette intervention, à la fois parce que c'est neuf. Il y a des rapprochements tout à fait inédits et étayés. Et ça couvre un spectre très large, hein, qui est à la fois historique, littéraire, psychanalytique, philosophique, éthique. Et donc vraiment, merci beaucoup. Bon, après, on pourra continuer parce que je crois que tout le monde est fatigué, à parler pendant la pause, mais j'aurai aussi des questions à vous poser. Enfin, je fais juste une toute petite remarque. Effectivement, sur la question des occupations dont Genet parle, je pense que, comme vous l'avez dit et agrandi, parce que moi je l'avais vu un petit peu, mais là c'est bien plus grand, il y a toujours trois occupations en même temps. Il y a l'occupation de la Syrie par la France, il y a l'occupation de la France par l'Allemagne, et il y a l'occupation du Liban par Israël. Et jamais Genet n'oublie l'une ou l'autre. Et donc c'est évidemment plus compliqué que Marty ne le pense, par exemple. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est justement sur la différence que vous faites entre ce que vous appelez les malentendus cachés, donc ça c'est l'autre, et vous parlez de polémique invisible, ou polémique, j'ai oublié l'adjectif, mais là je...
Malentendu latent et polémique cachée.
Voilà, ça c'est très, très efficace, merci.